Le plaisir de louer le Seigneur avec le peuple de Dieu, des chants qui élèvent notre Seigneur, qui célèbrent sa gloire et qui nous amènent à orienter notre cœur vers son règne, n'est-ce pas? Et je pense à cette prière que le Seigneur nous a donnée, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous désirons voir ce règne établi. Et alors qu'on est un petit troupeau ici, rappelons-nous que ce qui s'est fait ici, ce qui se fait ici, se fait des millions de fois dans des millions de foyers, d'églises, de temples et d'autres lieux. Le peuple de Dieu à travers le monde loue le Seigneur comme nous dans toutes sortes de langues. Et on joint notre voix et on joint notre cœur à cela. Et donc c'est un privilège de pouvoir faire partie de ce royaume de Dieu, de cette Église universelle, et de contribuer à son édification. Et donc, merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être ici. Je suis, pour ceux qui ne savent pas, pasteur de l'Église évangélique baptiste Renaissance, une église affiliée à notre famille d'Église, l'Union d'Église baptiste francophone au Canada. Ça fait maintenant, cette année, fera ma 18e année que je suis à Québec, et une quarantaine, 40 ans dans le service du Seigneur, et je suis profondément reconnaissant pour ce privilège d'être ce prédicateur et porte-parole du Seigneur. On vit dans un monde, n'est-ce pas, qui est profondément bouleversé. On le voit, on n'a qu'à ouvrir le téléjournal, lire un journal ou aller en ligne sur des fils de nouvelles pour voir que notre monde est profondément brisé, profondément troublé. Et ce qui se passe dans ces lieux comme ici ce matin peut passer inaperçu aux yeux du monde. Mais nous sommes en train de bâtir quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Les nations vont disparaître un jour. L'univers va être transformé. Mais ce que nous sommes et ce à quoi nous travaillons va durer pour l'éternité, le royaume de Dieu. Nous sommes en quelque sorte des bâtisseurs de royaumes, chacun d'entre nous. Nous avons été équipés par l'Esprit, nous avons été placés dans le corps pour contribuer à son édification. Et donc, nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il n'y a dans l'Église de Jésus-Christ aucun sous-doué, aucun. Et ce matin, j'aimerais vous présenter un bâtisseur de royaume, justement. Un homme qui n'était pas pasteur, n'était pas sacrificateur. Il était un fonctionnaire et même un ministre dans un gouvernement païen. Le contexte est, nous sommes à Perse, à Suse, la capitale de l'Empire perse, en l'an 446 avant Jésus-Christ. Mais avant de lire cette introduction, ce texte, prenons un instant pour nous placer à nouveau devant le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce privilège d'être avec des frères et des sœurs, de louer ton nom, d'élever ton nom, de célébrer Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu règne, et nous travaillons ensemble à ce règne. Seigneur, c'est un privilège énorme que tu nous accordes, et on te prie maintenant de renouveler notre cœur, notre vision de nous-mêmes, notre vision de ton Église, notre vision de toi, pour que nous puissions continuer à accomplir la mission que tu nous as donnée, de rechercher d'abord et avant tout le royaume de Dieu, de la bâtir par la puissance de ton esprit et les uns avec les autres. Tout cela pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Et donc, ce bâtisseur de royaume que je veux vous présenter est un des nombreux bâtisseurs que Dieu a placé dans son règne pour contribuer à l'avancement de son règne. C'était un homme un peu hors norme. Comme je l'ai dit, il n'était pas un leader spirituel. Il n'était pas un sacrificateur ou un prêtre. Il n'a pas vécu sous la Nouvelle Alliance, il a vécu sous l'Ancienne Alliance. Et il n'a pas servi au moment où Israël était au sommet de sa gloire, mais au moment où il apparaît dans l'histoire, Israël n'existe plus. Sinon, en tant que province reculée de l'Empire perse. Même sa capitale, Jérusalem, a été rasée, ses murs détruits, le temple brûlé. Le peuple est éparpillé sans espoir et découragé. Cet empire d'Israël n'est plus qu'un souvenir lointain et mélancolique. Mais voilà que 141 ans après la destruction de Jérusalem et le déplacement de sa population à Babylone, Dieu touche le cœur d'un homme, un Juif, qui se trouve à Suse. Et on fait sa connaissance dans le livre de Néhémie, si vous voulez suivre avec moi. Néhémie, chapitre 1, versets 1 à 4, nous met dans le contexte de cet ouvrage. Voici ce qu'on y lit. Durant le mois de Kislev, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les interrogeais au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu. Les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. On arrête ici pour cette première lecture. Alors, on a cet homme, Néhémie, qui se trouve à Suse et qui reçoit la visite de son frère Hanani. Il s'enquiert de la situation à Jérusalem et le portrait qu'on y dresse est un portrait profondément décourageant. Le peuple se retrouve sans espoir, sans défense, sans ressources. On avait tenté quelques années plus tôt la reconstruction du temple. On avait réussi à bâtir quelque chose. On avait commencé à vouloir reconstruire les murailles, mais le roi perse, Artaxerxès, avait interdit sa reconstruction. Et donc, tout était resté finalement en ruine, essentiellement abandonné, seulement l'ombre de ce qu'était Jérusalem 141 ans plus tôt. Et la population était vraiment démoralisée. C'était vraiment pas un portrait très, très encourageant de l'état de cette ancienne capitale du royaume d'Israël. Alors, Néhémie aurait pu continuer à pleurer pendant quelques jours, démontrer toute sa tristesse pour le sort de ses frères à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Puis, évidemment, il est à Suse, il est un ministre, dans le gouvernement d'Artaxerxès, et il aurait pu simplement retourner à ses affaires. C'est un homme occupé, un homme chargé, un homme qui avait une certaine autorité en tant que ministre dans cet empire-là. Et après tout, qu'est-ce qu'un homme peut faire? Pas vrai? Qu'est-ce qu'un homme peut faire et à des milliers de kilomètres, finalement, de Jérusalem? Est-ce qu'on accepte le statu quo? Est-ce qu'on accepte les choses telles quelles? Après tout, ça fait 141 ans là, que c'est comme ça. Eh bien, le récit de la vie de Néhémie, de la vision que le Seigneur lui a donnée, nous rappelle justement la puissance d'un homme mobilisé pour la cause du royaume de Dieu. Un homme peut changer le cours de l'histoire. Un homme ou une femme qui s'abandonne à Dieu peut faire la différence dans le plan de notre Seigneur. Un exemple dans l'histoire de l'Église, on remonte ici. En 1865, nous sommes dans la ville de Londres, en Angleterre. Et il y a un couple du nom de William et Catherine Booth, qui sont un couple pastoral et qui sont à la recherche de la volonté de Dieu. Ils ne savaient pas trop à quoi Dieu les appelait. Et à un moment donné, la femme de William, Catherine, qui était aussi prédicatrice, a été invitée à porter la parole, à prêcher dans un quartier de Londres qu'il ne connaissait pas trop, qu'il n'avait pas vraiment visité encore. Et donc, sa femme a été prêchée. Et lui, pendant qu'elle prêchait, je ne sais pas pourquoi, il en a profité pour prendre une marche et découvrir ce quartier de Londres qui était inconnu pour lui. Et c'est un quartier pauvre dans l'est de la ville. Et il a été profondément choqué, frappé par ce qu'il a trouvé. Un bâtiment sur cinq était un bar. Un bâtiment sur cinq était un bar. Et la plupart des bars dans ce quartier-là étaient menus d'une marche, une barre ici où on pouvait mettre son pied. Savez-vous pourquoi on faisait ça? C'est pour permettre aux enfants de pouvoir se lever pour passer leur commande de gin. Parce que les enfants, à l'époque, fréquentaient, n'allaient pas à l'école, il y avait très peu de services, et même ces enfants, même des jeunes, allaient dans les bars et on leur servait de l'alcool. C'est un quartier profondément malsain, mal en prise. Et donc, cette nuit-là, William dit à son épouse Catherine, « C'est comme si j'entendais Dieu me dire, « Où penses-tu aller trouver un peuple si nombreux qui a autant de besoins? » Autant de gens perdus que dans ce quartier. Et il dit, « Chérie, j'ai trouvé mon appel. » Et plus tard de cette année-là, le couple Booth a ouvert leur première mission chrétienne dans ce quartier de l'est de Londres, un quartier défavorisé. Et leur vision était d'atteindre les délaissés, les laissés pour compte, au nom de Jésus-Christ. Et de cette vision de cet homme et de ce couple qui s'est engagé dans cette œuvre, qui a commencé tout simplement, est né un mouvement international implanté à un moment donné dans 126 pays qui comptait 1,5 million de membres. Aujourd'hui, on le connaît sous le nom de l'Armée du Salut. Ses origines, ses débuts viennent de cette vision que cet homme, William Booth, a eue sur son cœur lorsqu'il a vu la misère dans ce quartier défavorisé de Londres. Un petit commencement qui a donné une association internationale et qui continue encore aujourd'hui à répondre aux besoins des hommes et des femmes les plus désavantagés. Néhémie était comme ça. Néhémie avait été touché par le besoin de son peuple. Même s'il était à des centaines, voire des milliers de kilomètres, même si tout semblait aller contre ce projet qui prenait naissance dans son cœur, il a été touché par ces besoins-là, son amour et sa compassion, jumelés à une confiance inébranlable dans son Dieu. Ces choses ont produit dans le cœur de Néhémie une vision de reconstruction, une vision qui est devenue irrésistible et contagieuse. De ce portrait de destruction dépeint par son frère Ananie, Néhémie s'est mis à imaginer quelque chose d'autre. Des murailles reconstruites, une ville habitée par une foule dans la paix, dans la joie et dans la célébration. Ce qui semblait impossible. Impossible à ce moment-là. Lorsqu'on lit chapitre 1 de Néhémie et qu'on se rend au chapitre 2, 5 mois se sont écoulés entre la visite d'Ananie, le frère de Néhémie, et les événements du chapitre 2 de Néhémie. Et durant ces 5 mois, on comprend que Néhémie a continué non seulement à prier, mais à demander à Dieu une vision pour son peuple, une vision d'avenir pour un peuple qui était démoralisé et abandonné. Et donc, on se retrouve au chapitre 2 de ce livre, et on va lire les versets 1 à 6 d'abord. « Au mois de Nisan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné, jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. » Alors on lit ça, on dit, mais pourquoi il ajoute ce petit détail? « Jamais je ne m'étais présenté triste devant le roi. » Eh bien, parce que se présenter triste devant le roi et aller à l'encontre de l'étiquette de la cour. Un serviteur du roi qui se présente avec le visage abattu devant le roi, c'était dangereux. Ça aurait pu être vu comme une critique du roi, de son règne, de son gouvernement, et donc ça aurait pu être très dangereux pour les serviteurs. On ne se présentait pas le visage triste. Eh bien, dans ce cas-ci, le roi l'a bien vu. Le roi l'a vu et a réagi. Verset 2. Le roi m'a demandé, « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. » Et heureusement, le roi était de bonne humeur. Il ajoute, « Ça ne peut être qu'une peine de cœur. Ah, Néhémie, mon serviteur, mon ministre, va avoir une peine d'amour. » Heureusement, le geste de Néhémie n'a pas provoqué la colère du roi. Mais quand même, on continue, « Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu, « Que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? » Notez ici aussi un fait, il n'a pas mentionné le nom de la ville. Il n'a pas mentionné le nom de Jérusalem. Pourquoi? Parce que quelques années plus tôt, c'est ce même roi qui avait interdit la reconstruction de cette ville. Vous comprenez? Et donc, Néhémie prend un détour, parle de la ville de ses ancêtres, des tombeaux de ses ancêtres. À l'époque, prendre soin des tombeaux de ses ancêtres était un devoir fondamental. C'était très important. Verset 4. Le roi m'a demandé, « Que voudrais-tu? » J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi, « Si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. » Juste ça. J'aimerais prendre un congé sabbatique payé. J'aimerais partir à des centaines de kilomètres, abandonner mon poste pour un temps qui va durer 15 ans, pour reconstruire une ville qui anciennement avait été rebelle. Juste ça. Verset 6. Le roi et la reine assises à ses côtés m'ont alors demandé « Combien de temps ton voyage durera-t-il et quand serais-tu de retour? » Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Donc, un homme, un serviteur de Dieu, qui est ministre dans un gouvernement païen, qui domine sur Israël, sur la Judée, et qui ose faire une telle requête. À vue humaine, ça ne devrait pas arriver, ça ne devrait pas être reçu. Mais voilà que ce roi, on va le comprendre plus tard, aura été préparé par Dieu, travaillé par Dieu, et la requête de Néhémie était une requête venant de Dieu. Elle a été acceptée par ce roi. Une requête qui demandait de renverser une décision prise par ce roi 15 ans plus tôt. Et donc, verset 7, « Puis j'ai dit au roi, si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. » Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela. Wow. Tout cela, et il précise pourquoi. Car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Voilà pourquoi cette requête a été acceptée, parce que la bonne main de son Dieu reposait sur Néhémie. Et ensuite, Néhémie quitte. Et verset 9, on lit « Qu'arrivé vers les gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Donc, on voit ici l'importance quand même de Néhémie. Ce n'était pas un petit serviteur, ce n'était pas juste quelqu'un qui versait le vin. C'était, ce titre de déchanson était un titre important. Aujourd'hui, ce serait un ministre, clairement. Donc, il a aussi tout un groupe de soldats et d'officiers, de cavaliers qui l'accompagnent, de chefs de l'armée. Donc, on voit là, c'est quelque chose de gros. Et le roi accepte et soutient cette démarche-là de son serviteur, Néhémie. Mais ça n'a pas été apprécié par tout le monde. Verset 10, « Sanballat, le Horonite, et Tobija, le fonctionnaire ammonite, ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. » Et donc, Néhémie arrive à Jérusalem, verset 11. « Arrivé à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours, puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée, sans cesser d'examiner la muraille, puis je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. » Donc, il a bel et bien fait le tour de la muraille, le tour de la ville pour évaluer les travaux à effectuer. Verset 16, « Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. » Imaginez le suspense, hein? Un ministre d'Artaxerxès, qui vient de la capitale Suse avec tout un groupe, n'est-ce pas? Hein? Des officiers, des cavaliers et tout. Il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas c'est quoi. Il sort de nuit. Vraiment, c'est mystérieux tout ça. Et voilà que maintenant, il rassemble ses responsables. Et il leur dit ceci, verset 17. « Vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. « Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Verset 18. « Puis je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. » Il leur présente son plan, sa vision, le soutien que Dieu avait suscité dans le cœur du roi Artaxerxès. Et tout cela a eu un effet instantané, un effet mobilisateur chez les responsables. Ils ont dit, et c'est le texte pour nous aujourd'hui, Néhémie 2,18, « Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et mettons-nous au travail, et ils se sont fortifiés dans cette bonne résolution. » Imaginez le scénario. Des murailles en ruine sous l'ordre du roi Artaxerxès depuis 15 ans. Des ennemis, des gouverneurs de ce côté-ci de l'Euphrate qui devaient gouverner normalement et avoir Jérusalem dans sa zone d'influence, qui ne sont pas du tout contents de l'arrivée d'un homme qui a à cœur le bien-être de Jérusalem et du peuple juif. Et une muraille en ruine, et tout cela semblait être un projet irréalisable. L'opposition des peuples avoisinants, un état de délabrement avancé, tout cela semblait une tâche insurmontable. Mais savez-vous, finalement, en combien de temps ils ont réussi à reconstruire la muraille au complet? Quelqu'un se rappelle un peu de son histoire? On se rappelle, la ville a été détruite il y a 141 ans, ça fait 15 ans que les travaux ont été arrêtés. C'est le même roi qui est au pouvoir. Des ennemis sont autour pour garder les Israélites dans la pauvreté, dans la faiblesse. Eh bien, cette muraille a été reconstruite en 52 jours. Seulement. 52 jours. Ce qui semblait impossible depuis 15 ans a été changé en simplement 52 jours. Chapitre 6, versets 15 et 16. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Eux-mêmes reconnaissaient que le Dieu des Israélites était derrière cela. Ils ont finalement donné gloire à Dieu qui a fait réussir ce projet auquel ils s'opposaient de toutes leurs fibres. Et tout au long de ce processus, Néhémie va constater la présence de Dieu, sa bonne main qui a rendu le cœur du roi favorable à son projet, le financement énorme qui a été approuvé, les adversaires qui sont paralysés et surtout le peuple qui s'est uni dans cette vision de reconstruction. Sa vision était devenue réellement contagieuse et tout cela, Néhémie l'attribue non pas à ses compétences, à son charisme, à sa puissance, à sa richesse, à son influence, non. Néhémie 2.12 parle que c'est parce que son Dieu bon était avec lui, qu'il avait mis à cœur ce projet pour Jérusalem et qu'il le bénissait à chaque étape. Mais encore une fois, donc, un gros projet, mais on peut comprendre que ce n'est pas parce que la vision venait de Dieu qu'elle allait être facile à réaliser. Si vous avez le temps cet après-midi, pendant que la neige tombe, ouvrez à nouveau votre livre de Néhémie et prenez le temps de lire les 6 premiers chapitres de ce livre. Vous allez voir toutes les manigances, toutes les menaces, toutes les tentatives pour corrompre, pour souiller la réputation de Néhémie, pour ralentir son projet. C'est incroyable ce que les ennemis extérieurs et même intérieurs, parce qu'il y avait eu des mariages d'alliance, n'est-ce pas, et des Juifs étaient alliés aux ennemis de Néhémie et travaillaient pour saper le moral du peuple de l'intérieur. Malgré toutes ces choses, chantage, tentatives de corruption et complot, où à un moment donné, on devait poser une brique avec sa main gauche et garder son épée dans sa main droite, tellement la menace était imminente et réelle. Malgré tout cela, la muraille a été reconstruite en 52 jours. Encore une fois, servir Dieu n'est pas toujours facile. Ce n'est pas parce que je suis au cœur de la volonté de Dieu, que je suis là où Dieu me veut et que j'ai été équipé par Dieu pour faire ce que le Seigneur m'appelle de faire, que ça va être nécessairement facile. Nous vivons dans un monde brisé, où le prince de ce monde se fait un plaisir pour s'attaquer au peuple de Dieu. On vit dans un monde en conflit, pas juste ce qui se passe en Ukraine ou au Moyen-Orient ou dans tellement d'autres pays, mais un conflit de nature spirituelle qui est cosmique. Nous sommes engagés dans un combat spirituel, mais nous sommes du bon côté et nous sommes dans le camp du plus fort, du Tout-Puissant. Le combat a lieu. Le combat a lieu. Il peut y avoir des blessures, mais la victoire est assurée parce qu'on bâtit pour le Seigneur Jésus et son règne s'en vient. C'était aussi, il faut l'ajouter, une vision qui était quand même coûteuse. Elle ne s'est pas réalisée sans sacrifice réel de la part de Néhémie. Lisez par exemple avec moi le chapitre 5, verset 14. Toujours été impressionné par ce portrait de Néhémie. il a été nommé en quelque sorte gouverneur de la région. Et normalement, lorsqu'on est nommé gouverneur, on a droit à prendre une part des impôts, à recueillir une part des impôts pour payer ses frais de cour et gouverner. N'est-ce pas? Je suis gouverneur, donc ça va, je vais le montrer, hein, que j'ai l'autorité, que j'ai du pouvoir et que j'ai de la richesse. Mais voici ce qu'on lit au chapitre 5, verset 14. « Dès le jour où le roi m'a désigné pour que je sois leur gouverneur dans le pays de Juda, soit depuis la 20e année du règne d'Artaxercès jusqu'à la 32e année, pendant ces 12 ans, ni moi, ni ma parenté n'avons vécu des revenus octroyés au gouverneur. Mes prédécesseurs faisaient peser de lourdes charges sur le peuple. Ils exigeaient de lui du pain et du vin, ainsi que 40 pièces d'argent. Leurs serviteurs, eux aussi, exerçaient une domination sur le peuple. Pour ma part, je n'ai pas agi de cette manière, et ce, par crainte de Dieu. J'ai même travaillé à la réparation de cette muraille, et je n'ai acheté aucun champ. »
Puis regardez ce qu'il ajoute.
« De plus, mes serviteurs étaient tous ensemble occupés à ce travail. J'admettais à ma table 150 juifs et magistrats, sans compter ceux qui venaient chez nous des nations environnantes. Chaque jour, on m'apprêtait un bœuf, 6 moutons de choix et de la volaille, et ce, à mes frais. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance toutes sortes de vins. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus octroyés au gouverneur, car de lourdes charges pesaient déjà sur ce peuple. » Et il termine cette section avec une de ses prières qu'on retrouve tout au long de son livre. « Mon Dieu, souviens-toi pour mon bien de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Cette vision ne s'est pas réalisée sans sacrifice réel de la part de Néhémie tout d'abord. Il a montré l'exemple. Il savait que le peuple était opprimé, écrasé, appauvri, et il n'a pas voulu en ajouter. Et je vais vous avouer, je suis profondément impressionné par la table de Néhémie. Hein? Il devait en avoir de la bouffe, il devait en avoir du monde autour. Un homme, une vision ont redonné espoir à un peuple abattu. Mais cette vision ne pouvait pas se réaliser par un seul homme. Ne pouvait pas être réalisé par un seul homme. Il fallait une mobilisation générale. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, je vais vous rappeler un souvenir triste. L'hiver 1997-1998, en fait janvier 1998. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le Québec a vécu quelque chose qui l'a profondément marqué. Est-ce qu'on sait c'est quoi? Est-ce qu'on se rappelle? La crise de verglas, exactement. Moi, j'habitais à l'époque à Saint-Blaise-sur-Richelieu, en plein centre du triangle noir, comme on l'appelait. Nous avons été les derniers à être reconnectés au réseau public et ma maison, que je louais à l'époque, ça nous a pris un mois. Un mois avant d'être branchés. Et pendant ce mois-là, on s'est promenés. On a été chez des amis de l'église qui avaient l'électricité. On a été chez une autre sœur où on a épuisé sa réserve de bois pour chauffer la maison. On a été chez ma sœur à Terrebonne, à Mascouche. On s'est promené pas mal durant ce mois-là. Et par ailleurs, à chaque jour, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait le premier ministre et le PDG d'Hydro-Québec, André Caillé, avec son fameux col roulé à l'époque, qui à chaque jour nous faisait état des travaux de reconstruction du réseau électrique, parce que des pylônes, hein, c'était démoli là, sur des centaines de kilomètres. Je voyais ça, moi, des poteaux en bois cassés chez nous. On voyait les pylônes en métal qui s'étaient écroulés sous le poids de la glace. Vous vous rappelez de ça, hein? Mais très probablement, André Caillé a été une source d'encouragement et d'espérance pour les Québécois qui le voyaient, qui les encourageaient, puis disaient « Ah voilà, on a reconnecté ça, on a reconnecté ça. » Et on voyait les progrès, puis il a bien dirigé cette crise-là. Et le réseau, une bonne partie du réseau électrique du Québec a été reconstruit, là aussi en un temps record. Mais probablement, vous savez qu'André Caillé, il n'a pas monté une seule ligne, hein, cet homme-là. Il n'était pas sur le terrain, il dirigeait l'organisation, mais ce sont des milliers de monteurs de lignes du Québec, des autres provinces canadiennes et même des États-Unis, et je pense même de l'extérieur, qui sont venus prêter main forte aux Québécois et aux Québécoises pour rebâtir leur réseau électrique. Ce qu'on a vu au Québec en janvier 98, c'est ce qui s'est vécu à Jérusalem en l'an 446 avant Jésus-Christ. Un homme a communiqué une vision de reconstruction qui a mobilisé non seulement toute la population de Jérusalem et tous ses responsables, mais aussi toute la population avoisinante qui a été touchée par cette vision, qui a vu la main de Dieu et qui est venue participer à la reconstruction de leur capitale, de la muraille de Jérusalem. Et ce portrait est merveilleusement démontré au chapitre 3. Prenez le temps de lire chapitre 3. En fait, vendredi, j'ai relu ce chapitre-là et je me suis amusé à compter le nombre de personnes qui sont nommées, le nombre d'individus qui sont nommés et le nombre de groupes qui sont mentionnés, le groupe distinct. J'ai compté 35 individus qui sont spécifiquement nommés et plus d'une douzaine de groupes différents. Des groupes comme des parfumeurs, des orfèvres, ou un groupe de lévites ou de prêtres, ou encore des gens de Tekoa, de Mitzpah, de Jéricho et d'ailleurs, qui sont venus prêter main forte à la petite et faible population de Jérusalem. Et c'est grâce à cette mobilisation que cette muraille a pu être construite en un temps record, 52 jours. Et devant les résultats incroyables, inimaginables, Néhémie souligne que même leurs ennemis y ont vu la main de Dieu dans tout cela. Et Dieu en a été glorifié. Alors ce matin, je place devant vous cet exemple de cet homme. Un serviteur de Dieu qui était ministre dans un gouvernement païen, un homme occupé, un homme très chargé, comme plusieurs d'entre nous le sommes, ministre au sein d'un empire, un homme de confiance au service d'un puissant roi païen, mais malgré ses lourdes responsabilités professionnelles, Néhémie était un modèle de l'homme qui cultive une communion puissante avec son Dieu. Il avait une conscience de la présence et de l'action de Dieu, comme peu d'hommes l'avaient eu à ce moment-là. Il a pris le temps de prier et de jeûner pour ce projet qui est en train de naître dans son cœur. Et pendant ces 5 mois qu'il a pris avant de se rendre devant le roi pour lui demander ces choses, on voit qu'il a passé un temps dans la prière et dans le jeûne, donc à la recherche de la face de Dieu, à la recherche de la bénédiction de Dieu. Et vous lirez dans ces 13 chapitres de Néhémie, on retrouve au moins 11 prières de Néhémie. C'était bel et bien un homme de prière, malgré toutes ses lourdes responsabilités. Donc, il était un homme occupé, mais qui avait une vision de service pour le peuple de Dieu. C'était aussi un homme qui s'est investi entièrement, non seulement ses ressources, mais lui-même, en refusant le salaire du gouverneur et en prenant aussi la brique, le mortier, et les outils pour contribuer à la reconstruction de cette muraille. Et il s'est joint aux bâtisseurs, il a retroussé ses propres manches et s'est donné lui-même à la cause. Et cela, je crois, est un modèle pour nous. Nous sommes appelés à rechercher le royaume de Dieu, à bâtir le royaume de Dieu à travers l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous sommes une brique spirituelle, n'est-ce pas? Cette image que Pierre donne dans sa première épître. Et nous sommes appelés à trouver notre place et contribuer à cette édification. On n'est peut-être pas des Néhémies, mais on peut se trouver dans cette foule de gens mentionnés au chapitre 3 qui contribuent leur temps, leur énergie, leur amour, leur zèle, pour l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Et nous continuons ensemble à bâtir cette Église jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est notre tâche qui ne changera jamais.
sinon retour de Christ, œuvre terminée et qui sera glorifiée. Et ce peuple de Dieu va régner avec le Seigneur sur une terre renouvelée au siècle des siècles.
Mais dans tout cela, encore une fois, le cœur humble et sage et réaliste de Néhémie ressort. Lorsqu'on se pose la question derrière le secret de son succès, on aurait pu souligner plein de facteurs humains. C'était un homme qui avait une position d'autorité. Il avait l'oreille du roi. Il a pu obtenir des ressources. Il avait une influence. Il avait des officiers. Il avait une cour. Il était un homme important, riche, influent. Mais il ne mentionne aucune de ces choses lorsqu'il explique les raisons du succès de cette entreprise. Il avait toutes ces choses, mais il pointe les cœurs vers le Seigneur. C'est lui qui avait mis sur son cœur cette vision. C'est sa bonne main qui était posée sur lui, qui bénissait son projet et qui le soutenait dans ce qu'il accomplissait. Ma question pour vous ce matin, est-ce que vous croyez que Jésus est bel et bien présent ici en ce moment? Est-ce qu'on appelle ce rassemblement l'Église de Jésus-Christ? Oui. Et nous sommes actuellement en train de bâtir cette Église, de contribuer à son développement. À travers nos dons, nos prières, nos offrandes, notre service, le Seigneur se sert de ces choses et se sert de nous pour encore et encore faire briller son nom, faire connaître son nom, proclamer cet évangile qui vous a transformé, qui m'a transformé, qui veut continuer à le faire encore pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. C'est ce qu'on a chanté, je pense, aussi tantôt, hein? Lui ressembler. Est-ce que le Seigneur est ici aujourd'hui? Est-ce qu'il va l'être encore demain, après-demain? Est-ce qu'il veut agir à travers vous, à travers son Église? Quelles ont été les dernières paroles que le Seigneur Jésus a dit aux disciples en Matthieu 28? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jour jusqu'à la fin du monde. Dieu, Christ, est avec nous maintenant et toujours. Et donc, il accompagne, il soutient, il veut bénir la réalisation de cette vision qui est de faire connaître son nom et de faire croître son Église. Sommes-nous de ceux dont les noms vont apparaître dans la suite de Néhémie 3, cette liste de gens qui ont contribué à l'édification de l'Église de Jésus-Christ? Je l'espère. Je l'espère. Parce que c'est à travers cela qu'on peut aussi honorer ce Dieu merveilleux qui nous a tout donné, qui s'est abaissé, qui s'est humilié, qui a accepté la pire des morts, la honte la plus totale, pour nous donner un avenir, pour nous réconcilier avec son Père, pour nous donner la vie et nous remplir de sa paix, de sa joie et de son amour. J'ai la joie et le privilège de servir ce Dieu. Et je vais prendre le temps pour le remercier à nouveau ce matin. J'espère que vous voulez vous joindre à moi. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci pour l'image de ce bâtisseur de royaume que tu as laissé dans ta parole. À travers cet homme et cette vision que tu as placée sur son cœur, tu as donné un avenir au peuple de Dieu. Tu as permis une reconstruction de la ville, sa population qui a été augmentée, le culte qui a été repris, les prêtres qui ont été replacés, les chantres qui se sont mis à chanter et louer. Et c'est dans cette ville reconstruite, quelques siècles plus tard, que notre Seigneur Jésus-Christ viendra proclamer le message de l'Évangile du royaume de Dieu.
Seigneur, maintenant, nous regardons non pas à cette Jérusalem terrestre, mais à cette Jérusalem céleste. Et nous attendons ton retour. Merci, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Soyez bénis. Le Seigneur prenne soin de vous et se serve de vous puissamment pour la gloire de son nom.